Nous allons laisser la place maintenant au sénateur Michel Amiel, qui lui aussi a commis un rapport, en l'occurrence avec Alain Milon. Ça date d'avril dernier, donc c'est un rapport récent. Il s'agit d'une mission sénatoriale sur la psychiatrie des mineurs. Alors, sénateur, je vais vous laisser prendre le micro. Alors, soit vous vous mettez au pupitre, soit voilà, comme vous le souhaitez, pour nous présenter peut-être les conclusions de ce rapport. J'ai vu qu'il y avait 52 propositions, une par semaine, pour l'année à venir. Alors, c'est à peu près ça. Alors, cela étant dit, hein, il y a des propositions qui sont pratico-pratiques et puis d'autres qui sont beaucoup plus générales, bien évidemment. Et je pense que ça intéressera tout le monde ici de les connaître. Ensuite, nous aurons un quart d'heure d'échange seulement, parce que je crois que vous avez d'autres obligations derrière. Voilà, jusqu'à 12h30.
Bien. Alors, effectivement, 52 propositions, ce n'était pas la volonté de faire le catalogue de la redoute, mais essayer d'être, non pas exhaustif, mais le plus complet possible par rapport aux nombreuses auditions que nous avons eues. Je dois dire à marche forcée, puisque nous avons commencé les auditions début janvier pour finalement rendre le rapport le 5 avril. C'est-à-dire que nous l'avons fait de façon très, très dense. Madame Moreau, vous avez été une des premières à être auditionnée. Et j'ai pas honte de dire que nous nous sommes largement inspirés des préconisations que vous portez, mais pas seulement. Alors oui, effectivement, nul est parfait. Je suis le politique de l'étape. Je ne suis pas pédopsychiatre, ce qui aggrave encore les choses, mais bon, je suis quand même médecin, ce qui permet d'avoir un recul, un petit peu éclairé par rapport au sujet. Vous allez me dire pourquoi un tel rapport. Je vous avoue que c'est parti d'une expérience personnelle, double expérience. J'ai exercé 35 ans en médecine générale et je me suis souvent trouvé confronté à ces difficultés-là. Les difficultés, la souffrance psychique des jeunes, des enfants, des adolescents. Et c'est vrai qu'en lançant ce rapport au début, j'étais plus sur une question de souffrance psychique que de problèmes psychiatriques avérés, sachant que, bien sûr, il y a toute une transition entre les deux. Bien souvent, les professionnels de santé, les généralistes en particulier, se trouvent confrontés à une difficulté de ce genre sans trop savoir quoi en faire. La deuxième raison, c'est que dans ma vie politique, donc, j'ai été pendant 15 ans responsable au Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la protection maternelle infantile et de la protection de l'enfance, ce qui, bien évidemment, complétait largement mon expérience et le travail qu'on a pu faire avec Guillaume Bronsart, que je salue, a effectivement alimenté ce que nous avions ensuite décidé de sortir au Sénat. Alors, il n'a échappé à personne qu'il y a un changement de gouvernement. Et comme chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on a beaucoup d'espoir dans ce qu'il pourra produire. Alors, est-ce que les politiques sont incapables de faire quoi que ce soit? C'est effectivement une question. Bon, en tant que sénateur, c'est une mission d'information, c'est-à-dire que nous ne sommes là que pour aiguillonner, si je peux dire, l'exécutif, les ministères. Les échanges que j'ai pu avoir avec la ministre laissent à penser qu'elle est très sensible à ce sujet. Le rapport d'information, je ne peux pas être jugé parti, je vous laisse juge de son caractère intéressant. Je pense qu'il y a un certain nombre de préconisations qui me paraissent intéressantes. Alors, je voudrais quand même mettre en perspective ce rapport et le marathon législatif dont nous sortons la semaine dernière, qui est le PLFSS. Alors, si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, c'est facile à dire. Mais effectivement, derrière le PLFSS, qui, comme son nom l'indique, est un projet de loi de finances, il y a quand même un certain nombre de propositions, de préconisations qui transparaissent et qui laissent espérer un certain nombre de choses. Avant de venir vous rejoindre, j'étais à un autre débat sur le sujet qui s'appelait PLFSS, rupture ou continuité. Je préfère dire transition. On espère passer d'une logique, je dirais, strictement comptable à une approche plus médico-économique. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, bien entendu, certains fustigeront la allez, je vais employer les mots forts, la dictature de Bercy. On sait très bien que nous avons un déficit et une dette, et que d'une façon comme d'une autre, il faudra bien arriver à passer par le comblement de l'un et de l'autre. Il n'en demeure pas moins que des pistes intéressantes sont proposées. Et si on décline ça avec la stratégie nationale de santé, qu'on retient trois thèmes qui peuvent se décliner facilement sur ce projet, la prévention, l'innovation et l'équité. L'équité au niveau des individus, l'équité au niveau des territoires. Alors, j'ai bien entendu la question de la démographie. Et si vous me permettez une brève digression sur le sujet, puisque ça a été l'objet de débats importants, plus au Sénat qu'à l'Assemblée, d'ailleurs, sur la question de la démographie médicale, non pas en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, mais démographie médicale en général, il y a deux logiques qui s'affrontent. Celle qui consiste à dire les mesures incitatives, il faut les développer, il faut les expliquer, et ce ne sont pas que des mesures incitatives en matière d'argent, et les mesures coercitives. Alors, j'ai participé il y a 7-8 ans à une mission à l'Académie de médecine, qui était présidée par le professeur Ambroise Thomas, qui est malheureusement décédé. Et nous avions abordé un certain nombre de pistes, coercitives et incitatives. Je vous avoue qu'à l'époque, j'étais plus sur le versant de mesures coercitives, style conventionnement sélectif ou obligation d'installation dans des territoires. Mais en 10 ans, les choses ont beaucoup évolué. Et la démographie médicale ne peut pas se réduire aux déserts médicaux dans les zones rurales. On s'aperçoit que des déserts médicaux, il y en a dans bien d'autres lieux. Moi qui suis de la région marseillaise, les déserts médicaux, pourtant Marseille est une ville, enfin on n'est pas une zone rurale bien évidemment, les déserts médicaux c'est aussi dans les quartiers difficiles, où justement il va y avoir des besoins importants en matière de psychiatrie et particulièrement de l'adolescent. Bon, disons-le sans tabou, les quartiers difficiles, ce n'est pas forcément des quartiers où on a envie de s'installer pour un certain nombre de raisons liées à la qualité de vie et aux problèmes d'insécurité. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La zone rurale, bien entendu. Et il y aura une désertification de plus en plus importante dans la mesure où ces territoires ruraux seront également privés d'autres types de services. Je veux parler des écoles, je veux parler des collèges, je veux parler du bureau de poste, de l'hôpital, voire de l'hôpital de proximité. Il est difficile d'aller dire à un jeune médecin, voilà, tu vas t'installer là, alors tes enfants, il faudra qu'ils fassent 30 km pour aller à l'école, 70 pour aller au lycée, etc. C'est un véritable problème. Il y a quelques années, il y a eu deux grandes mesures qui n'ont pas été de grands succès, mais avec les 25 ou 30 ans de recul, c'était le numerus clausus extrêmement restrictif. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé mes études de médecine en 72, il existait depuis 2 ans. Après, il a été renforcé avec le gouvernement Juppé. Et puis, il y a eu le projet MICA, qui a fait partir massivement des médecins à la retraite, sous prétexte qu'il y en avait trop. Ben, les résultats, on les voit 25 ans après, et ce sera très compliqué de rattraper les choses. Tout ça pour dire qu'en matière de démographie médicale, en général, hein, pas uniquement en psychiatrie, s'il y avait une solution, je dirais, miracle, ça se saurait. Aujourd'hui, les médecins ne veulent plus exercer comme ont exercé ma génération, ou plus encore celle de nos aînés. On me dit que je ne parle pas assez vite, ou que je ne suis pas encore dans le vif du sujet. Mais si, je suis dans le vif du sujet. Je suis dans le vif du sujet parce qu'on ne peut pas aborder les problèmes qui suivent si on n'a pas le socle de départ. Donc, s'installer aujourd'hui, c'est aussi vouloir exercer la médecine d'une autre façon qu'il y a 40 ans, dégager du temps personnel, prendre des gardes, oui, pas forcément travailler 14 heures par jour, ainsi que le week-end. Voilà. Je voulais partir de ce point de vue, et puis c'était aussi pour répondre à une remarque qui avait été faite sur l'incurie des politiques en matière de résoudre les problèmes de démographie médicale. Mais je ne l'ai pas pris pour une atteinte, d'autant que je ne suis pas dans l'exécutif et qu'en plus, je n'ai pas l'intention de me représenter à des élections à venir. Donc je suis totalement libre de mes propos, même si, bien sûr, comme tout un chacun, j'ai mes engagements politiques. Donc, le contexte posé, venons-en au sujet, partant d'un constat, celui de la grande misère de la pédopsychiatrie, et ça, je crois que le terme n'est absolument pas exagéré. Manque de spécialistes, je serai forcément un peu redondant, mais manque de spécialistes, manque de formation, puisque, et ça a été dit, absence de professeurs en pédopsychiatrie dans de nombreuses facultés de médecine, démographie médicale en berne, et je n'y reviendrai pas, et démographie médicale en berne en amont, c'est manque de généralistes, mais aussi manque de médecins scolaires, manque de médecins dans les PMI. Afin, et c'est le point de départ de notre rapport, d'être à l'origine d'un dépistage précoce des troubles psychiatriques des mineurs. Quand je dis dépistage précoce des troubles psychiatriques des mineurs, il faut partir du symptôme. C'est-à-dire que le médecin, mais pas seulement lui, l'enseignant, le père ou la mère, enfin bref, tous ceux qui gravitent autour de l'enfant partent d'un symptôme et il est difficile de faire la part de ce qui est une simple souffrance, éventuellement passagère, et de quelque chose qui va déboucher sur une authentique maladie. La prévention. La prévention, c'est tout de suite là où le bât blesse. C'est peut-être l'une des grandes priorités de la stratégie nationale qu'aujourd'hui développe Agnès Buzyn. Et je pense que sur le sujet, la ministre sera particulièrement sensible à notre préoccupation. Alors, vous savez, moi, en politique, j'ai été maire pendant presque 20 ans, je juge plus sur les actes que sur les paroles. Être sensible à un sujet, c'est bien. Le décliner et ensuite développer les idées qui permettent de l'améliorer, c'est mieux. Donc, on va voir. Donc, elle a notre rapport d'information. Alors, toujours sur la prévention, c'est le tableau, c'est des généralistes débordés et souvent peu formés, ni même peu sensibilisés. Des délais pour obtenir un rendez-vous en CMP, ça se chiffre en semaines, voire en mois, mais c'est vrai aussi dans le domaine public, c'est vrai aussi dans le domaine privé. Il y faudra aussi d'authentique travail, et vous l'avez dit, madame, avec les familles, en rappelant qu'une consultation de pédopsychiatrie, ce n'est pas uniquement une consultation d'un enfant, mais de son environnement, en particulier familial, et ce n'est pas un gros mot que de dire qu'il faut avoir une réflexion sur la question de tarification. Ça me paraît important. Le travail en réseau, et ça va dans la même logique, avec toutes les structures, et pas uniquement les personnes, qui gravitent autour de l'enfance. La famille, bien évidemment, en premier lieu. L'éducation nationale, et bien sûr, j'associe M. Brison au rapport que vous aviez remis et que nous avons lu avec beaucoup d'attention. La protection de l'enfance, mais aussi la PJJ. Le but étant, je le rappelle, de ne pas laisser évoluer une pathologie parce qu'elle sera prise en charge précocement. Le problème, c'est que pour assurer cette mission, il faut une meilleure reconnaissance de la spécialité et des professions associées. Et j'insiste, et des professions associées. Raison pour laquelle j'aborde maintenant un sujet qui, dans le rapport et dans la dernière partie, la démographie, la formation universitaire, et nous sommes, après avoir entendu les différents sujets, conférences des doyens, etc., clairement prononcés en faveur d'un co-DES. L'attractivité du métier, il faut 10 ans pour faire un médecin, il en faut bien davantage pour faire un pédopsychiatre. C'est peut-être un petit peu d'ailleurs le revers de la médaille, c'est-à-dire que si on dit un médecin, il faut déjà faire 10 ans d'études, et en plus, tu n'auras pas la liberté d'installation. J'ai peur qu'il y ait une notion contre-productive, mais je me trompe peut-être, et il faut avoir beaucoup d'humilité en la matière. Développer la recherche aussi, et en particulier la recherche sur un plan épidémiologique, et ça avait été dit par un certain nombre de, d'audition. Alors je sais que l'épidémiologie en psychiatrie, ça fait un petit peu peur, mais je pense que si on veut mieux connaître les réalités des choses, il faut passer par là. C'est en tout cas l'idée que nous nous sommes fait. Et puis prendre en compte les professions associées. Cela a été dit, psychologue, au niveau de l'éducation nationale, ça a été fait. Nous avons repris une de vos idées. Les infirmières, je me rappelle qu'il y a bien longtemps, il y avait deux formations distinctes, infirmière en général, infirmière en psychiatrie. Alors, depuis, cela a disparu, mais peut-être serait-ce l'occasion, à la lumière de la réforme LMD, de créer un master. Un master après l'équivalent de la licence, c'est-à-dire les 3 années de formation dans les écoles d'infirmiers et infirmières. Puis je voudrais aussi aborder, vous avez vu que je n'ai pas été analytique point par point, c'est plutôt un vaste panorama, c'est difficile en quelques minutes, la question de l'hospitalisation. Il y a quelques années, et puis ça continue au titre du virage ambulatoire, on a fermé beaucoup de lits d'hôpitaux, et en particulier en psychiatrie, partant d'un principe que, bien entendu, l'hospitalisation prolongée, surtout en la matière, n'était pas nécessaire. Là, aujourd'hui, on se retrouve quand même face à une véritable difficulté, et en particulier en matière d'urgence. Alors, le problème de l'urgence en pédopsychiatrie a été abordé, pas mal abordé dans les Bouches-du-Rhône. Les choses ne sont pas simples. Il nous a paru nécessaire quand même d'avoir un minimum sur un territoire donné à déterminer, de lits d'urgence en pédopsychiatrie. On a préconisé également, par rapport au groupement hospitalier de territoire, alors on sait que dans certains départements, je pense au Vaucluse, on a créé des GHT psychiatrie, mais dans l'ensemble, c'est pas le droit commun. Mais tout de même, de sanctuariser le financement des activités en psychiatrie. Alors, c'est pas facile, Madame Moreau le disait tout à l'heure, on va venir chercher des budgets là où il y en a, à un moment donné, on va estimer qu'il y a plus d'urgence. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Ne pas hésiter à faire appel à une des compétences de la Haute Autorité de Santé, qui est la compétence organisationnelle. Et enfin, revoir les questions de tarification. Alors, je sais bien que la psychiatrie échappe à la T2A. On sait aussi que la T2A, même dans les hôpitaux généraux, a fait la preuve de son imperfection. Il faut revoir tout ça. Donc au total, effectivement, 52 propositions, peut-être trop, mais il fallait véritablement interpeller sur le manque de moyens, et cela dans tous les domaines de notre champ d'investigation. Je terminerai peut-être en rappelant le nécessaire décloisonnement du sanitaire, du médico-social, je pense au handicap, et du social, mais pas seulement. Il faut effectivement qu'il y ait une véritable porosité entre les différents partenaires qui s'intéressent à ce sujet, depuis les familles, l'éducation nationale et les instances que je citais tout à l'heure. Sur la nécessité aussi, c'est un thème qui m'est cher, de rassurer le grand public à l'égard de la maladie mentale, de la maladie psychiatrique. Comme je l'ai souvent dit, les malades mentaux sont plus souvent les victimes que les acteurs d'actes de violence. Sur l'intérêt, pas seulement sanitaire, mais économique, d'une prise en charge précoce des troubles psychiatriques des mineurs qui peuvent alors guérir. Psychiatrique, je dirais, c'est évident. Économique, ça l'est peut-être moins, mais je vous cite le chiffre de... Alors bien sûr, il est difficile à évaluer, mais on parle d'une trentaine de milliards du coût de ce sujet-là. On verra bien qu'on a tout intérêt à faire des progrès dans ce domaine-là. Puis disons-le clairement, sur l'incongruité d'une telle situation dans un système de santé qui se veut toujours le meilleur du monde. Puis encore une fois, terminé par, là aussi, une question qui m'est chère, c'est la dimension éthique. Sans opposer l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité chère à Max Weber, je dirais qu'on ne peut aborder ce sujet sans avoir tout cela en tête. Récemment, il y avait dans Le Monde une tribune d'Emmanuel Lévinas qui disait Oui, c'est bien l'innovation thérapeutique, c'était le deuxième volet. L'innovation organisationnelle, n'oublions pas l'innovation éthique, ce qui peut paraître une opposition, mais j'y crois franchement. Et du coup, je vous livre une citation de Lévinas que j'avais mis en tête du rapport. « Dès l'autre qu'autrui me regarde, j'en suis responsable. » Merci.